Mesdames, messieurs, je me présente, je m'appelle Jean Morzel. J'ai vécu, il y a 57 ans, une expérience qui sort du commun, à savoir que j'ai vécu une NDE. L'NDE, c'est quelque chose qui vous arrive, pourquoi à vous, vous n'en savez rien, mais cela vous marque à vie. Et donc, je suis toujours marqué par cette NDE, que j'ai toujours présente à l'esprit, que je vois sans arrêt quand j'en parle. Et si vous voulez, elle a changé totalement ma vie. Je n'ai plus les mêmes valeurs, je ne vois plus les choses de la même manière. L'argent compte, bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel. La célébrité non plus, ce n'est pas l'essentiel. Je suis ici parce qu'on vient toujours me chercher. Donc je réponds, par contre je réponds toujours oui quand on me demande de faire quoi que ce soit, mais vous n'êtes pas là pour écouter ma vie, vous êtes surtout là pour écouter ce qu'est une NDE. Et la mienne, si vous voulez, elle est toute petite, elle est minuscule par rapport à tous ceux qui, même peut-être dans cette salle, ont vécu eux aussi une NDE, qui ont vu des choses extraordinaires, des êtres de lumière, des parents décédés. Moi, j'ai rien vu de tout ça. Mais ma particularité, c'est que j'ai vu des choses concrètes et qui ont été vérifiées par la suite par les personnes de mon entourage, que ce soit ma mère, le chirurgien qui m'a opéré ou les infirmières. Donc je situe la scène, 1949, la moitié de la salle n'était pas née, et donc à l'armée, 20 ans, et j'ai reçu une balle dans la poitrine lors d'une fausse manœuvre en exercice. Et de ce fait, si vous voulez, sous le coup, on a pas mal quand on reçoit un coup de feu, aussi bizarre que ça paraisse, on est assommé, jeté par terre, je perdais beaucoup de sang. Le chef de peloton qui était avec nous, affolé, m'amène à la caserne. La caserne, à l'infirmerie, voyant ce trou, on me dit c'est pas possible, et on m'envoie à l'hôpital d'Auch, là où c'est la préfecture du Gers, où je faisais mon service. Et à l'hôpital, bien sûr, en écoutant son courage et voyant un soldat qui perdait son sang de partout, il dit moi je ne veux pas, envoyez-le à l'hôpital régional qui est à Toulouse, de toute façon il n'y arrivera pas vivant. Donc, on n'avait aucun souci à vous faire. Mais néanmoins, j'ai survécu, je suis arrivé jusqu'à Toulouse. Et à Toulouse, je suis rentré dans cet hôpital de nuit. J'ai été blessé vers 5h du soir, j'ai dû rentrer à l'hôpital, ça devait être 9h30, 10h du soir. Et à ce moment-là, je suis passé sous un porche éclairé. Et puis j'avais des moments de lucidité, des moments où je sombrais. Je n'étais pas dans le coma, mais je perdais connaissance quand même. Et de ce fait, à un moment donné, je me suis réveillé en sentant un masque froid que l'on mettait sur ma figure. Et j'ai inhalé un gaz, ou deux gaz, de chloroforme et d'éther. Et je suis tombé dans un trou noir, trou profond, une chute. J'ai encore le sentiment de la chute. Et quelques instants plus tard, combien de temps, je ne sais pas, je me suis réveillé en haut d'une pièce où avait lieu une opération. Cette opération, je ne sais pas ce que c'était exactement, mais moi, j'étais au-dessus, j'étais immobile, curieux, mais nullement inquiet. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment suis-je arrivé ici? Je ne rêve pas. Mais si vous voulez, j'étais curieux de voir l'état dans lequel j'étais. Et brusquement, j'ai eu envie de voir ce que faisait le chirurgien dans ce corps. Et alors, à ce moment-là, instantanément, en un zoom immédiat, je me suis retrouvé à la pointe du scalpel du chirurgien. Et je voyais tous les détails, le drap, la goutte de sang, le drap qui entourait la plaie. Enfin, j'étais vraiment sur la plaie, carrément. Et surpris, je suis revenu là où j'étais au préalable. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était ma pensée qui dirigeait tout ce que je voulais faire. Alors à ce moment-là, je me suis livré à des tas de choses exceptionnelles qui m'amusaient. Je dois dire que je n'étais pas... j'étais curieux, mais je n'avais aucune crainte. Je me suis rendu compte qu'en ayant envie de monter, je montais, qu'en ayant envie de descendre, je descendais. Et bon, je me suis rendu compte aussi que je voyais à 360 degrés. Je voyais devant, derrière, en haut, en bas, en même temps. Alors c'était d'autant plus... c'était curieux, mais ça ne m'inquiétait nullement. Et à un moment donné, je me suis retrouvé devant, à côté du mur de la salle d'opération. Et pour quelle raison, je l'ignore. Enfin, je suis allé contre ce mur et je l'ai traversé, ce mur. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de fente. Je me suis retrouvé de l'autre côté et je me rappelle, en même temps que je vous le dis, parce qu'en même temps que je vous en parle, je traverse le mur. Je voyais les briquets de Garonne, la brique de Toulouse, la brique rose, s'il en est, et je me suis retrouvé de l'autre côté. Un grand parc avec des grands arbres, la nuit... j'ai reconnu le portail d'entrée, le porche d'entrée qui était encore éclairé. Et en dessous de moi, il y avait un garage de vélo. Un garage de vélo en tôle ondulée où il y avait trois vélos. Je suis rentré à nouveau dans la salle d'opération, pas exactement au même endroit, un peu plus loin. Et alors là, d'autres expériences curieuses m'attendaient, à savoir que... je lisais dans la pensée des gens. Autrement dit, quand un chirurgien prononçait une parole, n'importe laquelle, je savais qu'il allait prononcer tel mot, tel mot. Autrement dit, lorsqu'il émettait cette parole, je l'avais déjà entendue. Autrement dit, j'étais dans la pensée des gens. C'était curieux, parce que à ce moment-là, on savait ce que les chirurgiens ou les uns et les autres pensaient les uns des autres. Et donc, mais je n'ai pas tout dit là. Hein. Et ensuite de quoi, bon, à ce moment-là, je me suis promené. Je suis allé dans... Non, à ce moment-là, il y a aussi une chose, c'est le seul moment un peu désagréable que j'ai eu. Il y avait une infirmière qui n'était pas très en forme, si vous voulez. Bon, à la vue de ce sang que le chirurgien, dans lequel le chirurgien pataugeait. Elle a eu une nausée, j'ai eu une nausée, je me suis senti mal, moi, à mon tour, et cette dame, cette jeune femme, est tombée dans les pommes. À ce moment-là, le chirurgien est arrivé, et je dois dire qu'il l'a poussée du pied, c'est vrai, en lui disant « elle s'en remettra, elle ». Ce qui laissait supposer que celui qu'on était en train d'opérer, il avait une chance sur deux. Donc après, je suis reparti dans l'hôpital, tant qu'à faire, visitant les lieux. Et c'est là aussi, c'est le seul moment où j'ai senti mon corps. J'ai senti ce que j'étais. Dans la mesure où il n'y avait pas la sepsie qu'il y a maintenant, c'était une porte vitrée. C'était une porte vitrée et j'ai traversé le verre, puisque j'ai traversé la pierre, je pouvais très bien traverser le verre. Et à ce moment-là, ce que j'étais... J'ai eu la sensation que ça s'étirait, que ça s'allongeait en traversant le verre. C'est le seul moment où j'ai senti ce que j'étais. Et puis j'ai traversé, j'ai visité l'hôpital long, large, j'ai traversé les murs. À ce moment-là, je ne marchais plus, j'hésite pas, je marchais tout droit. Et disons que je voyais les dortoirs, enfin, là où étaient les salles des infirmières. Et je suis revenu dans la salle d'opérations où, en revenant de la salle d'opération, j'ai passé un poste d'eau qui aura son importance par la suite. N'ayez pas peur, je ne vais pas parler pendant 2 heures, hein, c'est relativement court. Mais je suis rentré à nouveau dans la salle d'opération et toujours avec curiosité, je regardais tout ce qui se passait et brusquement j'ai vu une plaque sous la table d'opération marquée « Armes et cycles de Saint-Étienne ». Une plaque de 18 cm arrondie à chaque coin et sur fond vert avec des lettres blanches marquées « Armes et cycles de Saint-Étienne » et avec un numéro. Ainsi de quoi, je suis remonté au-dessus de la personne qu'on était en train d'opérer. Et je suis passé au-dessus de ses pieds et je suis redescendu après avoir franchi sa tête Et je suis remonté dans ce que l'on peut appeler maintenant un tunnel. Et alors, ce tunnel, si vous voulez, ce n'était pas un tunnel, ni un tunnel routier, ni un tunnel de SNCF. Et c'était un tunnel grumuleux, enfin nuageux, si on peut dire. Et disons que il était, la seule particularité, c'est qu'il y avait une espèce de voile bleuté, léger, qui était comme agité par le vent, mais d'une manière très légère. Et je suis monté pendant un certain temps. Et arrivé en haut, à ce moment-là, je me suis retrouvé dans un espace noir. L'espace noir était complet, était total, était extrêmement noir. Et puis je me suis demandé, c'est le seul moment où j'étais un peu interloqué, un peu indécis, savoir qu'est-ce que je faisais là. Et alors, à ce moment-là, je suis resté là un moment, un petit moment, parce que au fond, j'ai vu une lueur se dessiner. Vous savez, une lueur comme lors des matins d'hiver, lorsque vous êtes à la campagne, et que tout est noir, et on voit une frange blanche se dessiner. C'est exactement comme ça que je l'ai vu. Et cette lueur, petit à petit, a grossi, et elle est devenue lumière. Lumière dans le sens qu'elle s'est regroupée, et elle avait une puissance, mais une puissance infinie, beaucoup plus forte qu'un flash de photographe, beaucoup plus fort qu'un arc de soudeur. Et elle avait une particularité, elle n'éblouissait pas. Et alors cette lueur, si vous voulez, était avancée vers moi. Et au fur et à mesure qu'elle avançait vers moi, j'étais dans une joie, dans un bonheur ineffable. Je vais employer des mots ridicules qui ne signifient rien. C'était merveilleux. Alors ça signifie rien du tout, merveilleux. Parce que c'était mille fois au-delà de merveilleux. Le bonheur était total. J'étais vraiment dans un autre monde, c'est le cas de le dire. Et puis, elle m'a entouré, cette lumière. Et pendant qu'elle m'entourait, il y a eu une chose bizarre, c'est que pendant un laps de temps que je ne saurais déterminer, je me suis rendu compte que je savais tout, que je connaissais tout. J'avais la science infuse, je connaissais tout, les planètes, les mathématiques, alors que pour moi, 2 et 2, ça pose un problème. Donc j'étais vraiment dans un univers très étrange et très particulier. Et puis il y a eu dialogue avec cette lumière, parce que c'est ça qui est difficile à comprendre, qu'une lumière puisse échanger avec moi des propos, des paroles, des sentiments, tout ça. Mais la chose la plus merveilleuse qu'il y avait, c'est que cette lumière, elle m'aimait. Et c'était un amour fabuleux, immense, colossal. Et pendant un certain temps, si vous voulez, je suis resté là, en symbiose avec elle. Elle m'a pénétré, je ne suis pas rentré dans la lumière. Ça, c'est le seul regret que j'ai eu de toute mon MDE. Et puis, à un moment donné, bon, il a fallu se séparer, en fait. Tout au moins, elle s'est éloignée de moi. Et ce n'est pas elle qui s'est éloignée de moi, c'est moi qui suis redescendu dans le tunnel. Mais, si vous voulez, ce retour était, comment dirais-je, si j'avais été heureux près de la lumière, j'étais aussi malheureux de la quitter d'une aussi grande façon. Mais avec résignation. J'étais résigné et j'ai compris pourquoi maintenant j'étais résigné, parce que j'ai toujours ce petit bout de lumière que j'ai amené avec moi et que j'ai toujours en moi. Et ça, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Mais, bon, n'empêche que mon périple continuait de se continuer. Et je suis arrivé dans la salle d'opération, je suis repassé au-dessus de ce corps, et à ce moment-là, j'ai réintégré ce corps par la fontanelle. Et j'ai réintégré ce corps par la fontanelle, et si vous voulez, je l'ai épousé comme une main épouse un gant. Car, si vous voulez, je l'ai pénétré jusqu'au bout des doigts, des pieds, des orteils, enfin, etc. Tout mon corps, je l'ai réoccupé. Et à ce moment-là, j'ai recommencé à souffrir, d'ailleurs. Voilà, mon année 2, elle est simple. Quand j'entends des amis ou des gens avec qui on parle souvent ensemble, qui me racontent avoir vu des êtres de lumière, avoir parlé avec eux, moi j'ai pas vu grand-chose. Mais la chose qui est importante, c'était la table d'opération, c'était le poste d'eau, et c'était aussi le fait du garage de vélo, par ailleurs, qui vont avoir leur importance par la suite. Car, si vous voulez, j'ai été le premier Toulousain à bénéficier de la pénicilline aussi. Merci, monsieur Fleming. On me faisait une piqûre toutes les 3 heures. Je n'avais aucune perfusion, parce qu'à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Et la seule manière qu'on avait trouvée pour me préserver un peu, tu ne bois pas pendant le temps qu'on t'indiquera. Donc au bout de 2 jours, j'étais assoiffé, exsangue complètement. Je me suis rappelé que lors de ce voyage si particulier que j'avais fait, j'avais vu un poste d'eau. Donc j'ai eu la force, parce que j'en avais encore, de me lever et d'aller y boire. Et donc j'ai bu goulûment à ce poste d'eau et je suis revenu en titubant et je me suis recouché. Ça a été la première chose. Donc pour moi, si vous voulez, ça a été quelque chose de précieux, dans ce sens que quand j'étais dans ce voyage si particulier, j'avais vu un poste d'eau et que ce poste d'eau, il existait. Ensuite de quoi, mon chirurgien, qui me faisait des ponctions tous les jours et me surveillait comme le lait sur le feu, parce que je crois que ça a été la première fois à l'époque que l'on avait opéré un cœur, un foie. Et on l'avait opéré grâce à un bistouri électrique qui taillait et cicatrisait en même temps. Donc c'était un cas vraiment très particulier. Et donc le chirurgien était très fier de ce qu'il avait fait, et la réussite qui s'en suivait. Donc il me couvait. Et tous les jours, il venait me faire refaire le pansement. Et un jour, qu'il m'enlevait, j'avais un trou que j'ai encore d'ailleurs dans la poitrine, assez important. Avec une pince, il est allé chercher des petits bouts qu'il remontait. Et je lui dis, au fait, docteur, c'est des bouts de foie que vous me remontez, parce que j'avais su à ce moment-là qu'on m'avait opéré le foie. Et il me dit, oui, c'est des bouts de foie. Et alors, je lui dis, mais vous avez mal fait votre travail. Parce que, à un moment donné, vous aviez pris mon foie sur votre main droite, vous l'avez mis sur votre main gauche, et vous l'avez entaillé. Ah oui, c'est vrai, on te l'a raconté. Et non, je lui dis, je l'ai vu. J'avais plus de 40 de fièvre, on laisse tout à un vieux malade, un grand malade comme moi, il rêve un peu, bon, enfin, il mélange tout, on n'en parle plus. Et disons que, bon, mais c'est passé comme ça. Mais enfin, ça intriguait quand même. Et, bon, les semaines ont passé, les mois sont passés, je me suis remis de cette histoire-là, mais j'avais toujours cet esprit, ça me taraudait l'esprit, que ce que j'avais vu, c'était quelque chose de fabuleux, de merveilleux, mais il fallait le concrétiser, il fallait que je sache si c'était vrai. Parce que 49, à l'époque, maintenant, on parle des NDE, on l'en voit au cinéma, on l'en voit partout, des livres, etc. Oui, j'ai écrit aussi 2 livres. Et disons qu'à ce moment-là, je suis allé donc voir ce chirurgien. Et je lui ai dit, docteur, vous savez que, également, lorsque j'ai été en haut, dans mon promenade si particulière, j'ai vu une plaque sous la table d'opération. Il m'a dit, une plaque, mais tu rigoles. Il n'y a jamais eu de plaque sous la table d'opération. Il y a 6 ou 7 ans que j'opère là-dessus, s'il y avait une plaque, je l'aurais vue. Et alors, il me dit d'ailleurs, attends, je vais aller voir. Il est parti, 5 minutes plus tard, il est revenu, blanc comme un linge, en me disant, elle y est. Et cette plaque était sous un molleton. Il y avait un molleton qui recouvrait la table d'opération, et il était sous le molleton. Comment je l'ai vu, j'en sais rien. Mais enfin, je l'ai vu. Donc, ça, c'était des choses qu'on me disait par oui dire. Mais je me suis dit, j'avais vu aussi un garage de vélo. Et la première des choses que j'ai voulu voir, lorsque je me sentais un peu mieux, quand on commence à m'asseoir sur le lit, j'ai demandé à 2 infirmiers de m'amener à la fenêtre. Alors, comme on passe tout un grand malade, évidemment, on se demandait, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, on m'a amené près de cette fenêtre. Et la première chose que j'ai faite, j'ai plongé mon regard sur le côté gauche et j'ai vu un merveilleux garage de vélos, avec 22 vélos à l'intérieur, parce que je vous avais compté. Il y en avait 22. C'était un garage de vélos. Et alors, si vous voulez, tout se recoupait. Donc, je n'avais pas rêvé. Donc, j'avais vu quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Et disons, ça a modifié toute ma vie, parce que j'ai eu une rencontre, je peux dire, avec quoi, avec qui, je ne peux le dire, mais ce n'était pas quelque chose d'humain, ce n'était pas quelque chose de terrien, c'était quelque chose de l'au-delà. Il n'y a aucun doute là-dessus, j'en suis persuadé. Et disons que, si vous voulez, après, quand on réfléchit à tout ça, mais je me suis dit à ce moment-là que ça allait beaucoup plus loin. Ça allait à savoir que la vie continue après notre mort. Ça fait réfléchir quand même, hein. Et même quand on n'a que 20 ans ou 25 ans, on est obligé de raisonner. Et je me suis toujours dit que la vie ne finissait pas avec le trou dans lequel on nous met. Au contraire, elle continue. Mais le temps a passé. Et puis, si vous voulez, c'était un événement tellement exceptionnel, tellement fort, qu'il fallait que j'en parle. Et alors, la première des choses que j'ai voulu faire, la première personne sur qui j'ai tenté cette expérience, c'était ma mère, qui était à mes côtés tous les jours, bien sûr, parce qu'elle avait reçu mon avis de décès aussi, il faut faire, hein, parce que l'armée, il était tellement bon, le chirurgien, le médecin militaire avait dit que j'arriverais pas entier à l'hôpital, donc ils ont purement et simplement, le lendemain, envoyé un télégramme à mes parents disant que j'étais décédé. La joie a été immense lorsque mes parents ont su que je n'étais pas décédé. Et donc ils sont venus me voir tout de suite à l'hôpital. Et pour confirmation, si vous voulez, j'ai voulu le dire à ma mère, parce que ça vous étouffe quand vous avez quelque chose d'aussi fort qui vous est arrivé. Et j'ai dit à maman, bon, je vais... Tu sais, il m'est arrivé quelque chose pendant que l'on m'opérait. Ah bon? Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que dans le tunnel, j'avais vu une espèce de voile bleu qui était agitée par le vent. Lui, tu sais, je suis monté dans un tunnel, et en haut du tunnel, il y avait une espèce de voile bleu. Oh mon Dieu, ma mère est très catholique, allait à la messe tous les jours pour sauver son fils, ce que je la remercie d'ailleurs. Elle a dit, merci mon Dieu, c'est la Sainte Vierge, et elle a foncé à Lourdes, elle m'a mis une plaque. Elle y est. Si je lui avais dit le reste, elle me construisait une cathédrale. C'était évident. Ce qui fait, par conséquent, je me suis tu. Mais je me suis tu pendant 40 ans. Pendant 40 ans, je n'ai plus parlé. Jusqu'au bienfaiteur que j'ai eu la chance de rencontrer l'an dernier, qui était le docteur Moody, qui a écrit ce fameux livre, La vie après la vie. Et quand j'ai lu ce livre, ouf, je n'étais plus seul. Car c'est ça le problème des expérienceurs, un terme que je n'aime pas beaucoup, mais enfin, il n'y en a pas d'autre. Car c'est la chose qui est la plus importante pour nous, c'est notre solitude. On est tout seul avec quelque chose de fabuleux et qu'on a envie de donner, qu'on a envie de faire partager. Mais on n'a pas de mots pour ça. Par contre, chaque fois qu'on me demande de faire des conférences comme ce soir, mais je le fais avec grand plaisir parce que je pense que je me suis tu pendant très longtemps, mais depuis que je sais que je ne suis plus seul, depuis que l'on me demande de faire des conférences ou d'écrire des bouquins, ça fait deux fois que je voulais dire d'écrire des bouquins aussi, hein, que enfin nous ne sommes plus seuls. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'il y a d'autres que nous qui ont vécu. Parce qu'en 49, chaque fois qu'on faisait une opération, je me suis dit que tout le monde pouvait vivre ça, alors qu'il n'y en a que quelques-uns qui peuvent le vivre. Mais si on le vit, c'est pour quelque chose. C'est ce quelque chose que je suis en train de faire aujourd'hui, car je pense que c'est à dire à tous ceux qui sont devant moi et qui m'écoutent, qu'à l'intérieur de chacun de nous, nous avons une petite lumière, que cette lumière, c'est quelque chose de merveilleux, Même si, si vous voulez, la religion pour moi ça compte beaucoup moins. Autant je crois dans l'au-delà, autant je suis certain de la vie après, que la vie après la mort continue, autant la religion m'inspire beaucoup moins. Au demeurant, je ne critique pas la religion. Je dis, c'est mon problème. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la religion ? Aimez-vous les uns les autres. On ne peut pas être mieux. Eh bien, nous aussi, je pense que c'est ça qui est important. C'est que nous sommes dans une société qui ne va pas très bien. Et d'ailleurs, on est quasiment tous habillés de noir. Hein, c'est soi-disant la mode. Mais enfin, c'est aussi le deuil, la mort, hein, le noir. Alors, je pense qu'il faut s'entraider, il faut s'aimer les uns les autres, parce que, de l'autre côté, quoi que vous ayez fait, le jour où vous passerez de l'autre côté, vous ne rencontrerez qu'une seule chose.